leur philo. Leur philo, c'est Henri-Marc Mutel, Chantal Le Montagnier, Djoubaka, avec ce soir Henri Bérec aux manettes, notre invité Chantal Jacquet, spécialiste de Spinoza, mais aussi de l'histoire de la philosophie moderne et de la philosophie du corps, auteur de différents livres, évidemment, dont Les Transclasses ou La Non-Reproduction, et tout récemment d'une conversation avec Jean-Marie Durand, juste en passant.
France Inter, leur philo. Patricia Martin.
Chantal Jacquet, bonsoir.
Bonsoir.
Puisque c'est avec vous, grâce à vous, que nous allons parler des transclasses, il faut peut-être d'abord expliquer ce que c'est qu'un ou une transclasse. Le terme, en fait, est un néologisme.
C'est un néologisme que j'ai forgé pour désigner celles et ceux qui, en groupe ou individuellement, changent de classe sociale, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire d'un milieu relativement modeste, pauvre, vers un milieu plus aisé, un milieu bourgeois, ou inversement, d'un milieu bourgeois vers un milieu pauvre ou modeste.
Vous dites bien transclasse et pas transfuge.
Je dis plutôt transclasse que transfuge, parce que transfuge, ça signifie que l'on fuit sa classe sociale et qu'on est transplanté dans une autre classe, un peu comme un traître, celui qui a changé d'allégeance. Alors ça peut être le cas, mais transclasse c'est plus général, ça désigne l'ensemble des formes de passage, que ce passage soit une fuite ou bien une propulsion par le milieu grâce aux aspirations de la famille, ou une manière pour, par exemple, le patronat ou les classes dominantes d'aller chercher de la main-d'œuvre et de la former parce qu'elle a besoin de cadres pour reconstruire, par exemple, une nation. Donc, ce concept-là englobe toutes les formes de passage, dans un sens comme dans l'autre, et surtout, sans préjuger d'avance de la valeur de ce passage, puisque quand on parle de transfuge de classe, on a tendance à considérer que c'est une fuite et donc c'est un peu connoté négativement, ou quand on parle de parvenu, c'est encore pire. Ou quand on dit déclassé, c'est toujours péjoratif. Donc, s'il s'agissait de comprendre, pour moi, ces passages, leur
le
cause
passage,
et leur difficulté.
C'est ça, voilà. Class passing, hein, voilà. C'est un peu ça, d'accord. A priori, on peut se demander en quoi c'est un sujet philosophique, parce que, encore une fois, de prime abord, ce serait plutôt, je dis bien, j'emploie bien le conditionnel, un sujet de sociologie.
Alors évidemment, la question par exemple de la mobilité sociale est traitée par les sociologues, mais en réalité, tout dépend de la manière dont on constitue un objet de réflexion. Bon, vous prenez par exemple le corps, c'est l'objet de la biologie, ça peut être l'objet de la philosophie, de la sociologie. Donc le type d'approche que je voulais mettre en place, c'est celui qui consiste à se poser la question de savoir quelle est la part de la puissance d'agir dont dispose chacun, quelle est sa part de liberté au sein d'une condition sociale avec tous les facteurs sociaux, les déterminismes sociaux qui peuvent jouer. Et ça, c'est une question philosophique par excellence, c'est-à-dire c'est la question de la liberté dans une situation où en réalité peu de perspectives sont offertes, par exemple, notamment lorsqu'on n'a pas de ressources économiques pour pouvoir avoir un horizon dégagé.
L'écrivaine Marie-Hélène Lafon nous parle de ses origines.
Peut-être que le pays premier, on y est d'autant plus attaché que l'on s'en est arraché. Mais l'emprise olfactive est très très importante, on l'emporte avec soi. Il se trouve que ce nord du Cantal est au milieu de rien entre Clermont-Ferrand et Aurillac, et que, en effet, ce sont des pays isolés, ce sont des pays enclavés. Et ça, du point de vue psychique, c'est fondamental. Et ça n'est pas tout à fait un hasard non plus si j'ai insisté sur l'hiver. Ce sont des pays rechignés quant au climat. Donc ça, le climat et la géographie font les gens. Je ne viens pas, en effet, impunément de là. On ne vient pas impunément de là. Il m'arrive de penser que si je n'avais pas quitté, je n'eusse probablement pas écrit. Bon, on ne réinvente pas sa vie, hein. Mais les deux me semblent profondément liés. Et écrire quand on a quitté, et j'ai quitté, parce que c'est sociologique de quitter, oui, quand on est fille de paysan au milieu des années 60, dans ce milieu-là, hein, et dans ce lieu-là aussi. Et partant, étant voué à partir, je savais que si un jour j'écrivais, j'écrirais du lieu et du milieu d'où je venais. Et il y avait là, même si le mot peut paraître un peu désuet, il y avait là une forme probablement de fidélité.
Marie-Hélène Lafont est quelqu'un d'important pour vous, Chantal Jacquet. Vous lui avez même emprunté, je crois, une phrase en épigraphe des transclasses, « Ce monde premier que je quitterai et qui ne me quittera pas ».
Effectivement, je trouve que dans la manière dont elle présente sa trajectoire, il y a l'expression de tout le passage transclasse, c'est-à-dire le fait que on change de monde, mais que l'on porte en soi un autre monde qui continue à frapper à la porte, qui continue à tarauder. Mmh. Et donc, on est porteur d'une pluralité de mondes. Et quand bien même on voudrait s'en défaire, on voudrait renier le monde premier, par exemple, s'il a pu être douloureux ou si on a été expulsé, il n'empêche que l'on vient de ce monde-là. Et on a beau faire, il reste, et on a à le repenser, on a aussi à travailler avec lui, ou à y puiser des forces, et à renouer parfois avec des origines lorsqu'elles ont été douloureuses.
Ça n'est pas simple, parce que appartenir en quelque sorte à deux milieux, j'imagine que on doit pouvoir être écartelé parfois, avoir même l'impression de trahir.
Alors effectivement, cette expérience du passage, elle peut être pensée comme un écart qui prend la forme d'un écartèlement, d'un déchirement, mais elle peut être aussi, et en même temps, une expérience très enrichissante d'ouverture. Parce que pouvoir circuler dans plusieurs mondes, c'est une richesse infinie, d'une certaine manière. Ça permet de prendre conscience aussi des limites étroites et du monde premier et du monde second, et de les mettre en regard pour les critiquer, non pas nécessairement pour les dévaloriser, mais pour voir comment ils sont constitués, comment ils peuvent être aussi parfois des aides et des entraves, les deux à la fois.
Et pour échapper quelquefois aussi à l'entre-soi qui peut être très,
effectivement,
très pesant.
Le grand problème, c'est cet enfermement, surtout dans le milieu bourgeois, dans l'entre-soi, où on veut se protéger des revendications, des demandes de justice, notamment de justice sociale des classes populaires. Mmh. Et le fait qu'il y ait dans le monde bourgeois aussi une forme de métissage qui s'opère, où des transclasses et des transfuges de classe interviennent de façon aussi critique, ou sont porteurs d'une autre voix, et c'est décisif pour une meilleure compréhension et peut-être aussi pour produire des changements politiques. Je ne veux pas dire par là que le fait que quelqu'un change de classe, ça va transformer radicalement une société, mais ça permet de comprendre comment les classes sociales sont organisées, comment les mondes sociaux se définissent en antagonisme, et comment, au fond, le fait d'appartenir à une classe sociale, ça apparaît parfois comme une sorte d'identité figée, qu'il faut aussi analyser, déconstruire pour pouvoir inventer un espace de liberté, définir sa propre existence.
J'ouvre juste une parenthèse au sujet de Marie-Hélène Lafont, puisqu'on l'entendait. Dans le cadre du festival annuel de la Maison de la Poésie, elle va faire une lecture de Flaubert. C'est lundi prochain, donc à 19h à la Bibliothèque historique de la ville de Paris. Flaubert a un exercice d'admiration. Quel est l'exercice finalement le plus ardu? C'est d'aller vers le haut ou d'aller vers le bas, Chantal Jacquet?
Alors la question du passage, de toute façon, quand elle se pose, elle est toujours fonction des conditions initiales. Bon, évidemment, il semble beaucoup plus difficile d'aller de changer de classe sociale d'un milieu défavorisé vers un milieu bourgeois. Alors je ne dirais pas vers le haut, parce que pour moi ça n'est pas forcément une ascension, et je me prends beaucoup de distance avec cette notion-là, puisque c'est pour ça que mon livre s'intitule Juste en passant, parce que le problème, c'est dans le passage, c'est de savoir ce qu'on en fait. C'est-à-dire, est-ce que on va finalement passer de l'autre côté et, par exemple, être une sorte d'allié de la domination pour maintenir les classes dominées dans leur misère économique et sociale, ou est-ce qu'on s'efforce de défendre une certaine forme de justice pour que chacun puisse avoir des conditions de vie décentes? Donc c'est plus difficile, bien évidemment, quand on a des conditions économiques extrêmement précaires, on n'a pas de ressources intellectuelles, on n'a pas de perspective, si ce n'est de reproduire la vie sociale des parents. Mais il faut noter que dans le déclassement, ce qu'on appelle le déclassement, c'est-à-dire le fait que finalement on soit amené à changer de milieu lorsque l'on est favorisé, il peut y avoir une très grosse difficulté surtout lorsque ce déclassement n'est pas volontaire. Autrement dit, lorsqu'il est lié, par exemple, à une ruine de la famille ou, par exemple, à des motifs politiques. C'est le cas, par exemple, des gens qui avaient une situation très aisée, puis qui se sont retrouvés, suite à des guerres, suite à des persécutions, obligés de passer dans un autre pays.
On en voit tous les jours.
On en voit tous les jours. C'est-à-dire, le passage transclasse dans ce sens-là, c'est aussi souvent un passage, une forme d'immigration. Et dans ce cas-là, c'est difficile aussi, parce que on a bénéficié au départ de ressources et on peut avoir tout perdu. Cela dit, si évidemment le déclassement est volontaire, au sens où, par exemple, on choisit d'aller dans un milieu ouvrier, par exemple, parce qu'on ne supporte pas l'entre-soi bourgeois, on peut se heurter à des difficultés, mais évidemment, on a toujours la possibilité de revenir en arrière, et donc le confort d'un carnet d'adresses, de ressources économiques. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le type de condition initiale singulière. La même manière, lorsque l'on passe d'un milieu très pauvre à un milieu bourgeois, si la famille a désiré ce passage, c'est plus facile que lorsqu'on est en hostilité, lorsqu'on est en rupture.
Mais est-ce qu'il faut, au fond, être un transclasse pour se rendre compte à quel point les classes sont figées, crispées sur elles-mêmes, les classes sociales?
Toute personne qui
on s'en rend pas forcément
réfléchir,
compte, sinon.
On s'en rend pas nécessairement compte. Alors c'est une expérience qui permet de voir comment les classes sont construites et comment elles sont en antagonisme, comment il peut y avoir du mépris, comment et des méprises aussi dans tous les sens du terme. Et de ce fait, on peut dire que le passage transclasse peut être l'occasion d'une prise de conscience, d'une réflexion critique sur la constitution des classes sociales, mais il ne faut pas nécessairement être transclasse pour le faire. Tout penseur politique qui est lucide et authentique comprend comment s'agencent les rapports de classe et est à même de réfléchir avec des instruments intellectuels, qu'ils soient sociologiques, historiques, philosophiques.
On lit vos livres. Émilie Loiseau sur France Inter, un extrait de son nouvel album, c'est le 5e. Elle se souvient de l'insouciance d'un monde, le poids de l'existence.
Te souviens-tu des heures que nous passions ensemble dans la douceur du soir, habillés de candeur? Qu'est-elle devenue cette robe légère que j'avais accrochée? D'autres se sont amassées. Quelle est donc cette douleur étrange, comme un nouveau poids sur l'existence? L'insouciance était-elle que nous pensions ensemble soulever de nos mains le monde qui semblait éternel? Nos enfants seraient beaux, ils auraient devant eux de splendides chemins et à jamais le chant des oiseaux. Nous rêvions de tout dans tous les sens, sans souci du poids de l'existence. Pourrait-il qu'un jour
jour, la beauté nous rassemble et nous emporte. Si haut qu'elle nous métamorphose, que nous puissions réunir en confiance, graver le poids fragile de l'existence.
L'heure philo. Patricia Martin.
Chantal Jacquet, ce soir notre invitée, elle publie un livre avec Jean-Marie Durand, une sorte de belle conversation, juste en passant, paru aux éditions PUF. Qu'est-ce que la philosophie, se demandait Gilles Deleuze dans un ouvrage écrit avec Félix Gattari, c'était en 1991.
Il est vrai que parler a beaucoup de sens. Mais pour moi, parler ne peut avoir qu'un sens. Parler, ça peut vouloir dire que chacun s'exprime. C'est le contraire de la philosophie. Il y a un très beau texte de Platon. Dans un dialogue avec Socrate, Socrate dit, c'est quand même curieux hein, ce qui se passe. Il y a des sujets sur lesquels personne n'ose parler, à moins d'être compétent. Par exemple, sur la fabrication des chaussures, ou sur la métallurgie. Et puis, il y a une masse de sujets où tout le monde se croit capable d'avoir un avis. C'est un bon thème socratique, ça. Et hélas, cette masse de sujets sur quoi tout le monde croit capable d'avoir un avis, et qui dès lors sont agités particulièrement avant ou après dîner, ou pendant le dîner, hein, qu'est-ce que tu penses de ça, hein, quel est ton avis ça couvre précisément ce qu'on appelle philosophie. Si bien que la philosophie, c'est la matière où tout le monde a une opinion. Savoir si Dieu existe, là on peut toujours en parler au moment du fromage. Est-ce que Dieu existe? Chacun a un avis sur une question comme ça, chacun a son truc à dire. En revanche, la fabrication des chaussures, là, on est beaucoup plus prudent parce qu'on a peur de dire des bêtises, mais blague sur Dieu, on n'a aucune peur de dire des bêtises. Hein, c'est quand même curieux. Là, Socrate, il a saisi, à l'aurore de la philosophie, il a saisi quelque chose qui était parfait. Pourquoi? Si on comprenait ça, on comprendrait tout.
Gilles Deleuze, extraordinairement drôle ici. Gilles Deleuze, le prince des philosophes, pour vous,
c'est... Deleuze qui disait cela à propos de Spinoza, qui était
oui,
le prince des philosophes.
Pour vous, c'est le,
disons
Deleuze
que
est le prince des philosophes.
Il peut jouer un rôle justement de prince au sens de principe, parce que précisément dans cette démarche-là, il rappelle fortement que pour commencer à philosopher, il faut d'abord apprendre à reconnaître son ignorance et à savoir se taire et ne pas parler à tort et à travers. Donc cette leçon-là, effectivement, c'est une leçon première, principielle, et qu'on peut retenir. Aller contre l'avis dominant, aller contre cette propension à parler, cette propulsion qui nous pousse sans arrêt à émettre des avis et à considérer
surtout.
Que surtout et à considérer que on entend notre droit à les proférer, c'est aussi un obstacle parfois à la pensée. On n'en a pas conscience parce qu'on a l'impression que si on nous demande de nous taire, c'est une forme de censure. Mais je pense à Platon lorsqu'il disait que la philosophie c'était un dialogue silencieux de l'âme avec elle-même. Et ça c'est quelque chose de fort, c'est-à-dire qu'il faut précisément renoncer au bavardage pour méditer dans la profondeur des choses.
Mais avoir un avis plus précisément pour faire lien justement avec ce qui nous occupe ce soir, c'est-à-dire les transclasses, ça pourrait aussi être un sujet comme ça de débat à un dîner. Et il y a beaucoup d'idées fausses ou de récupération questions volontaires et notamment politiques à leur sujet. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ce que vous disiez déjà, vous esquissiez tout à l'heure cela, Chantal Jacquet. Le self-made man ou woman, ça n'existe pas. C'est-à-dire cette idée qu'on a de la fille ou du gars très très courageux, qui en veut, qui est le premier de cordée, qui est la preuve vivante que l'ascenseur social fonctionne. Tout ça, vous dites, c'est faux.
Effectivement, c'est une fiction que l'on a fabriquée pour essayer...
Une fiction qui nous arrange.
Une fiction qui nous arrange pour essayer d'expliquer ce que l'on ne comprend pas ou que l'on ne veut pas comprendre, c'est-à-dire la difficulté, précisément, quand on est dans des conditions économiques, politiques et culturelles très défavorisées, à changer son propre mode d'existence, à avoir un avenir. Et dès lors, la fabrique de cette notion de self-made man, pour expliquer les passages, elle permet de dire que tout dépend du miracle de la volonté et surtout de dire que ceux qui n'en font pas autant ont démérité, n'ont pas de volonté, sont donc des paresseux et donc de les condamner. Alors déjà, ils ont une existence qui est difficile, qui est misérable et donc c'est la double peine parce que ils doivent supporter cette existence et en plus on les en rend responsables et ça permet d'exempter les politiques d'avoir à prendre des mesures d'équité permettant de restaurer un équilibre.
Et ça permet de finalement, comment dire, de maintenir un conservatisme social, quoi.
Tout à fait, parce qu'on va montrer ces prétendus self-made men ou ces transclasses glorieux comme étant des exemples de réussite qu'on met en vitrine pour montrer bien évidemment que quand on veut on peut et donc si on ne peut pas c'est parce qu'on n'a pas voulu d'une certaine manière et donc on est responsable de son destin et du même coup eh bien on se sert de ces transclasses comme des instruments pour justifier le conservatisme social hein. Ce sont par exemple des individus dont on va saluer le changement social pour que rien ne change sur le fond, hein, d'une certaine façon. Et c'est pourquoi la notion de self-made man, elle est totalement absurde dans les termes, parce que personne ne se fait de rien. Quand un enfant naît, il n'est rien, il n'a rien. Et sans l'éducation, sans les rencontres, sans la formation professionnelle, sans l'histoire collective qu'on lui transmet, eh bien, il ne peut pratiquement rien. Donc, personne ne se fait tout seul. C'est donc une illusion de penser qu'on se fait tout seul. On se fait toujours avec les autres ou contre eux, mais toujours en relation avec eux. Donc il faut penser précisément dans ces passages de classe sociale ce que j'ai appelé une complexion, c'est-à-dire un ensemble de fils qui se trament les uns avec les autres pour constituer une existence. Il faut que précisément il y ait différentes déterminations. Quand bien même je voudrais devenir ceci ou cela, si je n'en ai pas les moyens économiques, si personne ne me fait la courte échelle, on me freine, on me culpabilise parce que j'ai cette aspiration-là, eh bien, je ne pourrais pas l'accomplir.
Donc, parce qu'il y a un immobilisme des sociétés qui peut être effrayant.
Tout à fait. Tout à fait. Et donc, il faut penser, pour essayer de comprendre ces changements à la marge hein, des transclasses, mais il faut comprendre quels sont tous les facteurs qui se combinent ensemble pour produire une non-reproduction. Hein. Puisque, généralement, bon, on le sait quand même que les sociétés occidentales ont une forte tendance à la reproduction. Alors, en France, on sait que 7 enfants d'ouvriers sur 10 reproduisent le même modèle de vie que leurs parents. Et même chose pour de nombreuses sociétés.
Alors, précisément, À ce sujet, Pierre Bourdieu, l'un des sociologues français les plus importants hein, de la seconde moitié du XXe siècle, qui dans son livre Les Héritiers, c'était en 1964, a montré justement comment l'école reproduisait les inégalités et lui-même est la preuve du contraire.
Je viens d'un tout petit village du Béarn, du sud-ouest de la France, bon, et d'une famille de tout petits fonctionnaires. Bon, mon père a accédé à la fonction publique très tard, après avoir passé ses 25 ou 30 premières années comme fils de petit métayer pauvre. Bon, et il a donc été toujours dans une position tout à fait inférieure, y compris dans ce monde inférieur qu'est le monde rural. Voilà. Bon, donc mon enfance est marquée par une expérience de Oui, de l'inégalité sociale, de la domination. Et je pense que je n'en ai tiré aucun ressentiment. Au contraire, je n'ai que... En général, les gens qui sont dans ma position, qui ont fait des trajectoires qu'on peut appeler foudroyantes, qui viennent du plus bas pour aller au plus haut, en général, ils sont très heureux du monde social. Ce qu'on ne voit pas, c'est que précisément, je suis... ce qui fait problème, c'est que je ne sois pas un universitaire heureux. Quand je suis entré à l'école normale, il y a deux moments. C'est quand je suis entré à l'école normale, et quand j'ai été nommé au Collège de France, c'est les deux moments où je me suis senti enfin paralysé par une sorte d'infamie, c'est très bizarre, je me sentais formidablement mal, parce que à la fois j'étais donc miraculé, et les miraculés, on leur demande de dire tous les jours merci du miracle, enfin bon, donc à qui pouvais-je dire ça? Bon, voilà, alors j'avais un sentiment très 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 bizarre, et en même temps très très refoulé, parce que la force du système scolaire est si grande que quand j'arrivais, quand je prenais le train pour retourner dans le Béarn, arrivé à Mont-de-Marsan, je pouvais plus supporter, ça me rendait fou, rien d'entendre les gens, l'accent, c'était une espèce de vulgarité, enfin bon, je sentais du dedans. Voilà. Bon, alors tout ça, ça a été extrêmement difficile pour moi. Il est vrai que la sociologie, ça n'a rien à voir avec le ressentiment, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je trouve que les gens qui ont le privilège d'être nés au bon endroit pourraient au moins fermer leur gueule quand ils disent ces choses-là.
C'est assez glaçant, hein, finalement, ces propos de Pierre Bourdieu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Chantal Jacquet, parce que se sentir miraculé d'un point de vue social... C'est d'une force inouïe de dire ça, et ça a dû être très très douloureux pour Bourdieu.
Alors, je crois qu'il faut faire une différence entre se sentir miraculé, c'est-à-dire la manière dont on vit cette expérience sociale du passage, et être miraculé. Parce que, en réalité, il n'y a pas de miracle. Parce que le miracle, c'est quelque chose qui est extraordinaire, et je crois que Bourdieu, alors qu'il se défend de cela, place sa propre trajectoire sous le sceau de l'exception, de quelque chose qui ne pourrait pas s'expliquer. Mmh. En réalité... les trajectoires s'expliquent, elles ont des causes. Elles ont des causes, un faisceau de causes, des conditions économiques, politiques propices, des aides par exemple, des bourses, des conditions familiales aussi, selon qu'on est intégré dans la famille ou pas, que la famille nous pousse à partir, soit parce qu'elle a des aspirations pour nous aider à avoir une autre existence, ou parce qu'elle nous rejette... Ça va jouer, les rencontres aussi amicales, amoureuses, qui nous amènent à désirer autrement, à nous confronter à une diversité. Donc il y a tout un faisceau de causes. Et quand on parle de soi comme d'un miraculé, le miracle, on ne le comprend pas, il est hors d'ordre. Hein. Donc c'est pourquoi on peut très bien se sentir comme rescapé, miraculé, sans en être pour autant un. Et Bourdieu, qui s'intéresse précisément aux causes de la reproduction, eh bien a entamé à un moment donné justement une réflexion qu'il n'a pas menée à bien, parce que ce n'était pas son objet. Il a dit qu'il faudrait quand même s'interroger sur les causes de ces destins dits d'exception, c'est-à-dire les héritiers qui dilapident leur héritage et donc vont connaître une condition de misère, et les enfants des classes populaires qui vont connaître ce qu'il appelle une ascension sociale. Donc il avait déjà tracé cette voie. Donc c'est pour ça que moi je prends un petit peu mes distances avec cette notion de miracle, hein, puisque ça s'explique, mais en même temps ce qu'il décrit c'est une situation douloureuse où la question se pose de la position qu'on peut avoir face
dans cet enchevêtrement, voilà, aussi d'une histoire à la fois collective et intime.
Et intime, parce que, au fond, qu'est-ce qu'un transclasse fait de son passage? C'est ça la vraie question. C'est-à-dire ce malaise qui consiste à voir qu'on n'est pas à sa place dans le monde bourgeois, mais pas seulement parce que le bourgeois rejetterait, mais parce qu'on ne veut pas non plus y prendre place. On n'a pas nécessairement envie d'être du côté de la classe dominante. Certains transclasses peuvent évidemment choisir cette posture-là, devenir ce que Nizan aurait appelé des chiens de garde du pouvoir. Hein. Mais d'autres, comme Bourdieu, sont travaillés par ces contradictions. Et on le voit aussi dans la manière dont il retourne dans le Béarn, c'est d'ailleurs le fait à la fois que...
L'accent,
l'irritation qu'il peut avoir, plus pouvoir supporter, et en même temps une tendresse infinie. Quand il dit qu'il fait cette étude sur les paysans en Béarn, cette enquête, lui, le sociologue, il y a l'émotion, les larmes qui affleurent, parce que c'est malgré tout une fidélité à l'ancien monde. Donc il y a ce vécu qui peut être douloureux, et la vraie question, c'est la question politique, qu'est-ce qu'on fait de ce passage, c'est-à-dire comment on en tire des forces aussi pour comprendre ce qui se joue, comprendre les parcours, comment nous sommes tous façonnés par nos conditions sociales, familiales.
Et marquées, parce que les marqueurs sociaux sont, et l'accent est un marqueur social, sont terribles. Il y a des codes d'une force sur la...
Il y a des codes, une incorporation.
La façon de parler, de s'habiller.
Les postures corporelles. Quand on regarde la manière dont les gens traversent un espace, on peut quasiment toujours...
Édouard Louis en parle très bien.
Deviner leur appartenance sociale. La manière, l'accent rocailleux qui vous fait repérer et qui va vous valoir des sourires condescendants, ou un petit air amusé. Donc ça joue également. Donc changer de classe sociale, effectivement, c'est importer un monde intrus dans un autre monde qui n'a pas forcément envie de l'accepter, ou qui peut l'accepter avec une sorte de regard comme si un regard logique, comme si au fond il y avait une curiosité, un monstre, celui qu'on montre du doigt, hein, un phénomène qui vient un peu troubler la bonne société, qu'on va accueillir dans les salons parce qu'il nous amuse, mais avec qui on prend des distances parce qu'il ne respecte pas les codes bourgeois. Donc ça, c'est quelque chose que Bourdieu a très très bien décrit et que de nombreux transclasses peuvent vivre. Mais précisément, ce qu'il y a à comprendre, c'est frottements. Ces affrontements aussi entre les classes pour peut-être déconstruire ces notions de classe sociale qui au fond nous sont des carcans et qui nous étouffent pour
pouvoir changer. Et quelquefois de vraies prisons. Pour vous, comment est-ce que ça s'est passé, Chantal Jacquet, puisque vous êtes une transclasse, vous êtes née en montagne, vous avez vécu en montagne, où ça?
Dans un petit village de Savoie, dans la Vanoise, donc en altitude, où donc les gens qui vivaient dans ce village, une cinquantaine d'habitants, vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Donc c'est vraiment une très très grande misère économique. C'était des ouvriers paysans, ou plutôt, pour ce qui concerne mon père, ce qu'on aurait appelé autrefois le loupenprolétariat, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de métier fixe, qui vont à droite à gauche pour arriver à survivre.
Et il avait commencé à travailler à l'âge de 9 ans,
donc c'est quand même très très difficile. Et de ce fait, je porte en moi cet héritage-là, ceux que j'ai laissés derrière moi, et qui sont aussi en même temps présents en moi. Leur voix, je l'entends et je veux la défendre également, puisqu'évidemment, dans cette trajectoire que j'ai pu faire, qui m'a conduite, évidemment, de trajectoire géographique, trajectoire économique, trajectoire politique, trajectoire sociale, il y a des phases où des phases de mal-être, il y a des phases où précisément grâce à la philosophie, mais on arrive à comprendre ce qui nous advient et on se libère, et la joie de comprendre bien évidemment, et où on se dit que toutes les déterminations dans lesquelles on nous enferme, le fait d'être une femme, le fait d'avoir une orientation sexuelle, le fait d'être issu de tel ou tel milieu, ce sont des déterminations qui ne nous définissent pas, sont des caractéristiques, des modes d'être, mais qui ne nous enferment pas dans une identité fixe. Donc, il faut apprendre aussi à se libérer des étiquettes qu'on nous colle sur la peau. Et de ce point de vue-là, je crois que la philosophie, c'est une arme précieuse pour se libérer de tous ces carcans.
Alors, chez vous, il n'y avait qu'un livre, c'était un petit Larousse, sur lequel il y avait écrit, à la première page, à l'intérieur, il y avait écrit « Famille Jacquet, 1964 ». Donc, on se doute bien qu'il n'y avait pas d'ouvrage de philosophie. À quelle occasion avez-vous découvert la philosophie?
Alors, ma découverte de la philosophie s'est faite
très tôt, avant la classe, en fait.
C'est un cousin qui m'a donné deux manuels de philosophie parce qu'il ne pouvait pas continuer d'études, qu'on lui avait donné. Donc c'était un peu le livre circule. Et bien évidemment, le fait d'avoir deux manuels de philosophie n'implique pas qu'on les lise et qu'on les comprenne.
Mais vous l'avez fait.
Donc, je l'ai fait, mais précisément parce que j'étais dans une situation où je pouvais, ces livres pouvaient m'apporter quelque chose.
Quels étaient ces livres?
Alors, c'était deux manuels de philosophie de classe terminale, donc qui présentaient le programme de philosophie et qui commençaient notamment, comme c'est très classique, avec la figure de Socrate. Et pour moi, cette lecture de Socrate, même si de la fameuse formule de Socrate, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien, ça a été une clé pour comprendre que je ne comprenais pas ce qui m'advenait, c'est-à-dire cette misère, la mort qui rôdait sans arrêt parce que les gens étaient dans des conditions difficiles.
La mort qui rôdait parce qu'il y avait des problèmes inouïs, y compris liés à la malnutrition, par exemple.
Effectivement,
enfin, c'était vraiment la grande misère.
C'était vraiment la grande misère. J'ai été témoin de cette souffrance, de ces corps déformés, de la tuberculose qui est liée à la malnutrition, de cancer. Donc, forcément, quand on est un enfant, on essaye de comprendre pourquoi ça advient. Et ces livres ont fait une sorte de rupture, de brèche dans mon existence, précisément, parce qu'au départ, le seul mode d'explication, c'était celui qui m'avait été transmis, c'est-à-dire un mode de vie religieux. Les gens offraient leur souffrance, ne la comprenant pas, offraient leur souffrance à Dieu en espérant que un jour, heureux ceux qui souffrent, ils seront consolés, un jour viendrait où ils auraient le paradis, mais en attendant, c'était l'enfer sur terre. Donc moi, je ne pouvais pas m'accommoder cela, j'avais une forme de révolte, et ces livres ont été l'occasion d'alimenter cette révolte pour qu'elle ne soit pas stérile, mais pour qu'elle me permette de me développer intellectuellement, d'avoir des ressources et aussi de ne pas être focalisée, centrée seulement sur moi-même, puisque c'est un peu le danger quand on vit dans une forme de misère, c'est l'aigreur, le ressentiment, ou une forme, on pourrait dire, d'écocentrisme qui fait qu'on se complaît dans une position victimaire, alors qu'il faut penser des liens de solidarité.
Et de loin, vous avez appréhendé 1968, les événements de 1968 ?
Non, j'étais trop jeune,
trop
et
jeune,
surtout,
il ouais.
Y avait deux éléments. Donc là, j'ai d'autre part le fait d'être très loin des centres citadins, de Paris, dans mon village. Le seul souvenir que j'ai, c'est qu'on n'est pas allé à l'école, donc ça faisait aussi une rupture, parce que un désœuvrement qui était propice à la méditation, puisqu'il se passait quelque chose, mais qu'est-ce qui se passait au juste, on ne le savait pas. Et ce d'autant plus que je n'avais pas la télévision, mes parents non plus, donc les informations advenaient par bribes et transformées.
Bien sûr.
Et puis c'était un monde très très cloisonné, qui vivait à part, hein, d'une certaine
façon. Et la rencontre avec Spinoza, c'est fait comment, Chantal Daquet ?
Alors, la rencontre avec Spinoza, je pourrais dire qu'il y a une pluralité de rencontres, parce que au départ, justement dans ce manuel, je pouvais glaner deux ou trois formules qui apparaissaient plutôt comme des sentences que je ne comprenais pas vraiment.
Tu mais peux ce que tu peux ? Vous avez dû le comprendre très vite, ça.
Bon, ça effectivement, mais c'était surtout l'idée que la philosophie est une méditation non de la mort mais de la vie. Alors c'est quelque chose qui vous tourne vers l'avenir, qui vous oblige à penser à une puissance d'agir, mais extraite du contexte, ça n'a pas grand sens. Donc c'est plutôt plus tard, lorsque j'étais en classe préparatoire, par l'intermédiaire de mon professeur de classe préparatoire, que j'ai pu vraiment entrer dans la pensée de Spinoza. Mais d'abord, comme je l'écris dans le livre, la structure géométrique de l'éthique avec
c'est difficile d'y entrer,
c'est extrêmement difficile. On a l'impression qu'il y a un mur géométrique qui se dresse devant vous et que c'est imperméable, et peu à peu, avec patience, on entre dans ce monde spinoziste et qui transforme l'existence, qui vous donne des instruments de pensée, d'accroissement de la puissance d'agir.
Et on finit par préférer finalement ce qui est le plus abscon, ce qui est le plus difficile à comprendre, ça vous plaît, ça.
Mais ce qui est difficile à comprendre, c'est souvent ça suppose un cheminement, une transformation qui vous grandit nécessairement. Donc, il faut pas être rebuté par la difficulté, se sentir en échec. Au contraire, cette expérience de quelque chose qui vous résiste, c'est aussi ce qui vous fait aller plus loin, qui vous fait sortir de vous-même. Chaque fois que une lecture peut paraître facile, c'est pas une lecture qui va vous transformer. Donc, l'expérience de l'échec premier, s'il n'est pas une expérience définitive, c'est quelque chose qui peut être fécond, parce que ça amène à trouver des stratégies de contournement, ça amène à se dépasser soi-même. Donc de ce point de vue-là, il peut y avoir une vertu de l'échec. Je ne dis pas de tout échec, parce que tout dépend encore une fois ce qu'on en fait, si on sombre dans le ressentiment ou si on épuise des leçons de modestie et des leçons pour avancer plus loin.
Le philosophe Étienne Balibar nous parle de Spinoza.
avec Spinoza. Ce qui est très intéressant dans le traité théologico-politique, effectivement, c'est que c'est un texte d'intervention politique. C'est la question de la compatibilité entre la construction d'un État démocratique et la liberté de penser, qui veut dire en particulier la liberté de penser religieuse ou confessionnelle, ou anti-religieuse, naturellement, ça en fait partie aussi. Spinoza est quelqu'un qui pense que la démocratie mérite son nom si et seulement si la parole est intégralement libre. Bon. Donc c'est un texte radicalement démocratique, si vous voulez. Mais pour qu'un régime se démocratise autant qu'il peut l'être, et c'est là que l'idée de démocratisation de la démocratie entre en scène, c'est-à-dire au-delà des formes institutionnelles figées ou considérées comme acquises, il faut que les masses deviennent politiquement actives. C'est-à-dire que leur capacité d'invention ou leur puissance d'agir et leur volonté et leur désir de liberté est un des éléments du tableau, mais ce que Spinoza a appelé leur superstition, c'est-à-dire leurs espoirs et leurs craintes irrationnelles, leur volonté même d'obéissance, la tendance à la servitude volontaire, comme dira la Boétie, et l'autre branche, disons, du dilemme. Donc la situation dans laquelle se trouve la démocratie n'est jamais une situation de certitude ou de garantie absolue de survie, c'est une situation d'aléa et d'incertitude permanente. C'est une des raisons, pas la seule, mais une des raisons pour laquelle la démocratie fait peur, et en même temps une des raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas nous en passer.
C'était donc Étienne Balibar, et Antonio Negri a lui écrit un livre sur l'anomalie sauvage au sujet de Spinoza. Radicalement démocratique dans un contexte historique particulier.
Effectivement, ce qui est frappant dans la pensée de Spinoza, c'est que c'est le premier philosophe au XVIIe siècle qui fait de la démocratie le meilleur des régimes, le plus propice à la liberté, et qui ose l'écrire. Jamais personne avant lui n'avait défendu avec autant d'ardeur cette idée de liberté de pensée et de la démocratie comme le meilleur des régimes. Généralement, on considérait que la démocratie, c'était la tyrannie de l'incompétence, un peu comme chez Platon, puisque si les foules se mettent à s'emparer de la politique.
Que va-t-il advenir ?
Que va-t-il advenir ? Donc, Spinoza a conscience du fait que les régimes politiques sont très vite menacés par les craintes, par la superstition, par les conflits, mais il met en place des institutions qui permettent de penser une démocratie, alors peut-être pas totalement satisfaisante, parce que je rappelle quand même que dans la démocratie, selon Spinoza, les femmes, les serviteurs sont exclus, ne peuvent pas participer au pouvoir politique. Mais c'est la première fois tout de même que on pense à un type de régime où l'on confie le pouvoir à la multitude. Et en montrant que dans les régimes monarchiques, qui ont cours à l'époque de Spinoza, mis à part les Provinces-Unies qui au départ étaient une république, mais qui ont été renversées. Et Spinoza a connu l'assassinat des deux frères de Witt et puis la restauration du pouvoir monarchique. Bien, cette confiance dans la possibilité de délibérer des esprits qui s'aiguisent par la discussion, c'est quelque chose d'extrêmement précieux que Spinoza nous livre comme leçon politique. Et cette défense dans le traité théologico-politique de la liberté de penser et de dire ce que l'on pense et de l'enseigner, là aussi, c'est ce qui permet de cimenter une démocratie. Et chez Spinoza, il y avait cette idée également que on défend la liberté religieuse, c'est-à-dire que l'on peut exprimer ses convictions religieuses. La seule limite, c'est qu'on défende ses opinions sans haine ni colère, c'est-à-dire que si la pratique religieuse est conforme à la justice et à la charité, alors on peut accepter la croyance.
Et Spinoza, qui par ailleurs était très conscient que l'homme faisait partie de la nature et qu'il était soumis à ses lois, mais ça sera l'objet probablement d'une autre émission. Manu Chao sur France Inter, une chanson de 1998. Souvenez-vous, Clandestino.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, porque
robar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Je voulais expliquer les mesures de ma spécialité, de ma situation. Je pense que c'est mon nom, je suis la vie de la Chinoise, je suis Mauritania.
Un ou une transclasse reste toujours un clandestin, une clandestine, Chantal Jacquet.
Il y a toujours cette idée de passage clandestin, d'une certaine façon, puisque...
Une immigration intérieure, en quelque sorte.
C'est une formule, effectivement, qui convient, immigration intérieure, parce qu'il y a forcément une trajectoire qui implique des transformations, et pour cela, ça suppose qu'on observe aussi, et que l'on sache comment se situer, que l'on sache ce que l'on peut dire et ne pas dire pour être accepté.
Donc oui, il y a des choses coming out qu'il faut faire quelquefois. Parce que vous racontez, je crois que je l'ai lu dans un article, vous racontez que après la publication de cet ouvrage collectif, donc avec donc des voix différentes, La Fabrice des transclasses, vous avez reçu du courrier et des témoignages finalement de transclasses.
Effectivement, parce que moi l'objectif initial dans le premier livre Les transclasses, puis ensuite dans La Fabrique des transclasses, c'était de rendre visibles les invisibles, c'est-à-dire de sortir d'une forme de clandestinité. Alors c'est toute proportion gardée, parce qu'il y a des époques où on accepte davantage les transclasses, d'autres où ils sont davantage condamnés parce qu'on a l'impression que c'est des usurpateurs.
C'est-à-dire quand ça va bien, on les laisse, et quand socialement ça va pas très bien, quand il y a des difficultés économiques, etc.,
quand il y a une très forte concurrence, les héritiers se sentent menacés par les intrus qui viendraient leur prendre leur place. Donc on admet quelques transclasses au rattrapage, un peu alibi, mais généralement c'est une lutte des places aussi. Donc c'est important de rendre visibles ceux qui étaient invisibles, qu'ils puissent témoigner, qu'ils osent décrire leur parcours, et surtout donner des instruments pour le comprendre, parce que généralement le mal-être que peuvent ressentir certains transclasses, ou les types de comportements qu'ils peuvent analyser, sont mis au compte d'une personnalité, du caractère, de détermination psychologique, alors qu'en réalité c'est l'effet du passage, c'est un effet sociopolitique qu'il faut analyser. Donc donner des instruments de compréhension, c'est toujours donner aussi des moyens de libération d'une certaine manière, que ce soit une libération par rapport à des formes de souffrance et de mal-être, que ce soit aussi une libération de la parole pour pouvoir témoigner de ce que l'on a vécu, et puis surtout de savoir comment on peut faire pour que ceux qui restent, c'est-à-dire ceux qui connaissent les conditions précaires et
vos copains d'école par exemple, vous les voyez toujours, Chantal Jacquet, parce que vous dites bien, vous dites finalement il y a une fluidité dans votre vie. Vous êtes femme, vous êtes philosophe, vous êtes citoyenne, vous ne vous êtes jamais sentie légitime, vous n'avez jamais eu honte, et puis voilà, vous avez fait comme ça parce que vous ne pouviez pas faire autrement.
C'était une nécessité, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y ait pas des phases où on puisse éprouver de grandes souffrances, que l'on puisse éprouver de la honte. Mais un passage, ça n'est jamais figé. C'est-à-dire, on est sans arrêt, comme tout individu, on reprend sa propre existence et on regarde autrement ce qu'on a vécu.
Ça doit aider aussi.
La philosophie, ça aide énormément. Dans la philosophie, il y a une éthique, donc une manière de vivre qui
la
permet
recherche du juste aussi.
La recherche du juste et d'une justesse dans la formulation et d'une justice. Mais d'une justice, il ne peut pas y avoir de justice si les autres sont laissés pour compte. Mmh. Et c'est pourquoi, moi, je crois que la question première, au-delà de la souffrance personnelle qu'on peut éprouver, des déchirements, du fait qu'on ne se sent pas accepté ou qu'on a l'impression qu'on n'a pas de place, tout ça... Ça peut être difficile à vivre, mais ce qui est insupportable, c'est que l'on serve d'alibi pour que rien ne change. Et penser à ceux qui sont restés. Évidemment, moi, je retourne dans mon village, je vois les conditions misérables, je vois que rien n'a changé, je vois ceux qui, déjà, à l'âge de 8 ans, sont étiquetés avec des verdicts scolaires, et qui n'ont comme possibilité, comme avenir, l'idée d'aller travailler au remonte-pente et tendre des perches aux touristes. Bien sûr, l'or blanc, mais l'or blanc des stations de ski n'est pas pour tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose qui préoccupe et qui travaille et toute la vie durant, quand bien même sur le plan personnel on pourra avoir des meilleures conditions culturelles, économiques, ce qui est important c'est comment on s'en sert pour pouvoir transformer un peu les choses.
Alors comment ne pas l'entendre dans une émission consacrée aux transclasses, c'est Annie Ernaux, auteure de La Place, de La Honte et de tant d'autres livres où elle mêle littérature, sociologie et histoire. Ses parents tenaient un café-épicerie à Yvetot.
La réalité, c'est lorsque je reviens à Yvetot pour voir de la famille qui y est encore, pour aller au cimetière, parce que ça aussi, ça compte. Et à ce moment-là, je veux dire, c'est ce que je ressens. Et ce que je ressens est toujours d'une extrême ambivalence. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'arriver dans un endroit où il y a des couches de moi-même qui sont superposées. C'est-à-dire, il y a la petite fille, il y a l'adolescente, mais tout cela n'est pas sécable. Ça peut pas se séparer et ça forme une espèce de monde qui me tombe dessus. J'emploie ce terme souvent, qui me tombe dessus, qui fait que je me dis... C'est pas une ville, c'est l'origine. Voilà.
Annie Ernaux n'a jamais trahi son milieu, mais ça l'a pas empêchée non plus de prendre une certaine revanche, au fond. Chantal Jacquet.
Effectivement, elle dit qu'elle a vengé sa race à travers son propre parcours. Et elle dit aussi que écrire, c'est tout ce qui reste quand on a trahi, en reprenant la formule de Genet. La vraie question qu'on peut se poser, c'est effectivement celle de la fidélité ou de la trahison. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement classique pour beaucoup de transclasses. Peut-être faut-il sortir de cette idée de fidélité ou de trahison, au sens où la vraie question pour moi, c'est pas que le transclasse soit un social traître, ni qu'il soit fidèle à son milieu. Le problème, la vraie question, elle est posée à pas seulement au transclasse, mais à tout individu, qu'est-ce qu'on fait face à une situation où certains n'ont qu'à se donner la peine de naître, où ils héritent, et l'héritage, c'est la cistana à vie, et ceux qui n'ont rien, dont la besace est trouée, comme je le dis souvent.
Le juste, précisément, on parlait du juste tout à l'heure, le juste, ce serait que les catégories sociales, au fond, ne nous enferment pas, voire même qu'elles n'existent plus, mais ça, c'est une utopie.
Effectivement, en tout cas, une utopie, ça peut être comme un horizon, mais un horizon, ça permet d'avancer. Et donc, on pense précisément à la question de la justesse et la justice en philosophie, cette justesse et cette justice, elle implique la solidarité avec ceux qui, dès la naissance, sont condamnés d'une certaine manière si on ne donne pas d'autres instruments pour se construire, pour accéder à une liberté. Et ça suppose une transformation nécessairement politique.
J'ai envie de citer Michelet, phrase puisée dans votre livre, Chantal Jacquet. « Le difficile n'est pas de monter, mais en montant, de rester soi. »
effectivement, Michelet a mis l'accent sur quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que c'est pas tellement la trajectoire que l'on fait qui importe, c'est pas ça qui est le plus difficile d'une certaine manière, c'est de pouvoir s'exprimer. Alors, rester soi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idée, dans la mesure où le soi n'est pas constitué d'avance, mais c'est au fond devenir soi-même comme un autre à travers le passage, et puis surtout faire en sorte que ce passage ne soit pas un passage solitaire, mais abolir les classes sociales pour tous.
Merci Chantal Jacquet. Juste en passant, est publié au PUF, c'est avec Jean-Marie Durand, puis il y a également Les transclasses ou la non-reproduction, et cet ouvrage collectif de 2017, La fabrique des transclasses. La semaine prochaine, nous parlerons de Nietzsche avec Barbara Stiegler.